Archéologie. L'archéologie peut-elle découvrir la Troie de mer? Suivant les traces d'Heinrich Schliemann, les archéologues modernes apportent une réponse surprenante à la question « Qui étaient les Troyens légendaires ?» Le roi Agamemnon se leva, « Ami, Zeus m'a juré, il y a longtemps, que je ne rentrerai jamais chez moi avant d'avoir fait s'écrouler les murs d'Ilion. » Double guillemets fermant. Objet métallique, biconvexe. C'est ainsi que l'archéologue anglais Donald Easton écrivit dans son journal de fouilles en juillet 1995, consignant froidement ce que tous les archéologues ayant fouillé Troie avaient espéré en vain. Il avait découvert le seul exemple connu d'écriture de l'âge du bronze à Troie. Cet indice s'avéra crucial pour comprendre le peuple qui vivait dans la Troie décrite par Homère. Les archéologues s'étaient longtemps interrogés sur l'absence totale d'écriture à Troie à la fin de l'âge du bronze. Il était peu probable que la culture troyenne de cette époque fût analphabète. Sans écriture, il aurait été presque impossible de gérer le commerce florissant que Troie entretenait avec ses voisins. Comment Troie aurait-elle pu rester analphabète alors que des civilisations comme l'Égypte, la Cananéenne d'Ougari, la Grèce mycénienne, l'Anatolie hittite et la Crète minoenne, pour ne citer que quelques exemples, possédaient toutes des formes d'écriture sophistiquées? Par ailleurs, les archéologues avaient peu d'espoir de découvrir une bibliothèque à Troie. Les archives d'autres sites, tels que Hattusa, la capitale hittite en Anatolie centrale, Knosso, la capitale minoenne en Crète, et Pylo, une cité mycénienne du Péloponnèse grec, consistent en des tablettes d'argile inscrites, trouvées à l'intérieur d'un palais ou d'un temple. À Troie, cependant, cette partie même de la ville fut rasée et recouverte de nouvelles constructions à l'époque gréco-romaine. Le passage prosaïque du journal d'Easton ne laisse pas penser qu'il ait jugé l'objet insignifiant. Sur le site de Troie, comme ailleurs, les objets métalliques sont d'une importance capitale, ils sont remis directement aux restaurateurs, qui utilisent des instruments extrêmement fins, semblables à des instruments dentaires, pour les nettoyer et préserver leurs caractéristiques de surface. Ce n'est qu'une fois l'objet nettoyé que le métal peut être identifié, et seulement alors que les experts peuvent l'interpréter. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un sceau et qu'il était en bronze, a déclaré Easton, décrivant le moment où il a aperçu l'artefact pour la première fois. Mais ce n'était que des suppositions, qui n'ont pas leur place dans le journal de fouilles. Là, seule la découverte objective doit être consignée. Et c'était un objet métallique rond et biconvexe, d'un peu plus de 2 cm de diamètre, d'environ 1 cm d'épaisseur, avec des trous pour un cordon. Il comportait peut-être des gravures. Mais avant le nettoyage, il était impossible de déterminer s'il s'agissait réellement d'écriture. Le vert de gris et les boursouflures posent toujours problème avec le bronze, car ils en modifient la structure. Seul un microscope permet d'identifier avec certitude les gravures. Bien sûr, j'étais curieux de savoir ce que les restaurateurs allaient découvrir. Pendant plusieurs semaines, la découverte des restaurateurs demeura le secret le mieux gardé de l'équipe de fouilles de Troie. Lorsque Manfred Korfmann, responsable des nouvelles fouilles, présenta ce qui s'avéra être un sceau lors d'une conférence publique à l'université de Tübingen en novembre 1995, des murmures d'étonnement parcoururent l'auditoire érudit, car Korfmann annonça, « L'écriture n'est pas, comme la plupart d'entre vous l'auraient imaginé, une écriture linéaire. Ce n'est pas du grec. » Double guillemets fermant. Ce fut une surprise. Tous les écoliers connaissent les récits de la bataille de Troie, qui dura 10 ans, le rassemblement des chefs grecs par le roi Agamemnon, la juste colère d'Achille et son refus de combattre, le chagrin d'Hécube, épouse de Priam, roi de Troie, suite à la mort de ses enfants, et la cause de tout cela, l'enlèvement d'Hélène par Paris, l'un des fils de Priam. Nous nous souvenons tous des murailles de Troie, si imposantes qu'elles ne pouvaient être franchies que grâce à la ruse du cheval. Après qu'Heinrich Schliemann, citoyen américain d'origine allemande, annonça en 1871 avoir localisé la véritable cité homérique de Troie sur une colline appelée Isarli, dans le nord-ouest de l'Asie mineure, presque tout le monde supposa que la langue de cette ville de la fin de l'âge du bronze était le grec. Avant Schliemann, de nombreux érudits ne reconnaissaient à Troie qu'une existence mythologique. Ceux qui croyaient en son existence réelle la situaient généralement à 8 km au sud d'Isarli, près du village actuel de Pinarbasi. Mais Schliemann s'arrêta à Isarli, creusa une immense tranchée dans le tumulus et y découvrit une cité antique, qu'il annonça au monde entier être la Troie d'Homère. La nouvelle de Schliemann fit l'effet d'une bombe. Il livra des récits romancés de sa recherche de Troie, s'appuyant sur l'Iliade, et reconstitua avec emphase le combat entre Hector le Troyen et Achille le Grec. Pour un monde fasciné, Schliemann apparut comme une sorte de Christophe Colomb des archéologues. Malheureusement, ni le récit de Schliemann concernant sa découverte de Troie, ni son interprétation de ce qu'il avait trouvé ne correspondait tout à fait aux faits. L'attention de Schliemann fut attirée sur Isarli, connu sous le nom d'Ilion chez les Grecs et d'Ilium chez les Romains, par l'anglais Frank Calvert, dont la famille vivait dans la région depuis des décennies, ayant été consul dans plusieurs états de l'Ouest. Calvert avait déjà localisé des cités antiques de la Troade, la région entourant Troie. Il avait même acheté la moitié orientale du tumulus d'Isarli, persuadé que c'était là, et non à Kinarbasi, que se trouvait Troie. Mais Calvert n'avait pas les fonds nécessaires pour entreprendre les fouilles. Lorsque Schliemann, qui avait fait fortune, principalement comme marchand d'indigo à Saint-Pétersbourg, en Russie, et comme négociant en or en Californie, proposa de financer les fouilles d'Isarli, Calvert l'encouragea de toutes ses forces. Schliemann commença comme un profane et commit d'abord de nombreuses erreurs. Convaincu que la ville homérique ne pouvait se situer qu'au fond du tumulus, il creusa jusqu'au fond, détruisant ainsi une grande partie des couches supérieures. En 1873, Schliemann fit l'une de ses découvertes les plus stupéfiantes, un riche trésor de coupes en cuivre, d'armes en bronze, de vases en or et en argent, de lingots d'argent et, plus spectaculaire encore, de bijoux en or. Il identifia aussitôt ce trésor comme étant le trésor de Priam, les magnifiques pendentifs en or qu'il contenait, affirma-t-il, étaient les joyaux d'Hélène. En réalité, le trésor date du 25e siècle avant J.C., soit plus de 1200 ans avant la destruction de la ville de la fin de l'âge du bronze associé aux épopées homériques. Schliemann n'a pas perdu de temps pour faire sortir clandestinement le trésor de Priam de Turquie et l'introduire en Grèce. Mais Schliemann apprenait aussi, par tâtonnement, des méthodes de fouilles plus systématiques. Il mérite d'être reconnu comme l'un des premiers archéologues à avoir compris l'importance de la datation par séquence des tessons de poterie, la datation des tessons par comparaison successive avec d'autres tessons. À Troie, Schliemann a également développé une forme de stratigraphie, dans laquelle les différentes couches d'occupation d'un site sont soigneusement dégagées une à une, et datées grâce aux séquences de poterie. Malgré ses imperfections, Schliemann a posé les bases sur lesquelles ses successeurs ont pu poursuivre le travail après sa mort subite, des suites de complications liées à une opération de l'oreille, en 1890. C'est à ses successeurs qu'il a incombé de mettre au jour les vastes vestiges de Troie. Ah, pour les archéologues, les informations les plus fiables proviennent de la fouille et de l'étude de couches d'occupation intactes. Or, à Troie, on trouve rarement des niveaux d'occupation intacts et non mélangés. Pendant plus de 3500 ans, de nouveaux établissements se sont succédés, s'élevant directement sur les précédents, suivant presque toujours un plan différent. Au fil des siècles, la butte s'est élevée de près de 20 mètres, formant une immense superposition de niveaux d'occupation. Mais cette butte a été maintes fois creusée et perturbée. Les premières fouilles non systématiques de Schliemann n'en sont qu'un exemple. Plusieurs tremblements de terre ont détruit les niveaux d'occupation de Troie, et de nombreux travaux de nivellement et de reconstruction ont eu lieu aux époques hellénistiques et romaines. Lors de la construction du grand temple d'Athéna au IIIe siècle avant J.C., par exemple, les Grecs ont tout simplement rasé une vaste zone au cœur de la ville. Les rénovations effectuées par les Romains lors de l'agrandissement du sanctuaire après 85 avant J.C. furent encore plus radicales. Malgré ces obstacles, l'histoire de Troie a été dévoilée strate après strate. Dès le début de l'âge du bronze, Troie pratiquait un commerce florissant. La ville se situait à l'entrée des Dardanelles, ces étroits détroits reliant la mer Égée à la mer de Marmara, qui débouche sur la mer Noire par le Bosphore. Elle devint ainsi un important centre d'échanges commerciaux avec les pays bordant la mer Noire et ceux situés à l'est. La position stratégique de Troie était due au vent. À l'entrée des Dardanelles, un fort vent souffle du nord-est. De plus, un puissant courant de surface de 5 nœuds s'écoule de la mer de Marmara vers la mer Égée. Les navires à fond plat et agrément carré de l'âge du bronze devaient donc mouiller à Troie et attendre des vents du sud favorables, qui ne soufflent que quelques jours en été. Les Troyens pouvaient ainsi percevoir non seulement des droits de passage pour les Dardanelles, mais aussi des frais d'amarrage. Grâce à sa situation géographique, Troie était un centre d'affaires important, échange de marchandises, déchargement et rechargement des navires. La ville devint un important centre commercial entre l'Est et l'Ouest, puis, à la fin de l'âge du bronze, entre le Nord et le Sud. Les premiers habitants de Troie arrivèrent vers 2920 avenue J.C. 3I. La situation du site, à l'embouchure des Dardanelles, était si avantageuse que la colline d'Isarli fut occupée pendant plus de 4000 ans. Elle fut finalement abandonnée au XIVe siècle après J.C., après la dissolution d'un évêché chrétien qui y avait été établi. Quelques siècles plus tard, Troie sombra dans un tel oubli que de nombreux érudits étaient convaincus qu'elle n'avait existé que dans les légendes. La ville troyenne la plus riche fut de loin Troie VI, 1700 à 1250 avenue J.C. Elle devint un centre important pour le commerce, la production de poterie et de laine, ainsi que pour l'élevage de chevaux. Vers 1470 avenue J, C, à l'aide d'outils datant uniquement de l'âge du bronze, les Troyens érigèrent les puissantes murailles et tours dont les ruines nous émerveillent encore aujourd'hui. Jusqu'à récemment, on pensait que ces murs constituaient le système de défense de toute la ville. Certains scientifiques s'étonnaient que les fortifications de cette puissante cité de l'âge du bronze ne couvrent qu'environ 2 hectares. Les fouilles de Korfmann, entreprises depuis 1988, ont apporté une réponse à cette question. Ces impressionnantes fortifications n'entouraient que la citadelle de Troyes, tandis que la ville elle-même, située au sud, était au moins 9 fois plus étendue. Cette ville basse possédait également un système de défense ingénieux. L'arme la plus dévastatrice de la fin de l'âge du bronze était le char de guerre tiré par des chevaux. Grâce au char, les guerriers pouvaient se déplacer rapidement d'un point d'attaque à l'autre et les archers pouvaient changer de position en un clin d'œil et écraser l'ennemi par leur charge. Il était crucial pour la survie de maintenir les chars ennemis à distance. Les Troyens mirent au point une solution simple et efficace, ils creusèrent un fossé dans la roche mère relativement tendre, légèrement biseautée du côté de la ville. Ce fossé était juste assez large et profond pour empêcher les chars de le franchir, obligeant ainsi les assaillants à descendre de leur monture et à pénétrer à pied, escaladant à découvert le talus du fossé avec leurs lourdes armures. À environ 90 mètres derrière le fossé, les Troyens construisirent un rempart d'où ils défendaient la ville basse. De là, les archers de Troie pouvaient viser librement leurs assaillants encombrés d'armures. Seules certaines parties de ce rempart ont été fouillées jusqu'à présent, les fondations d'une palissade en bois de près de 3 mètres d'épaisseur, probablement constituées d'une rangée de pieux devant une plateforme, datant du début de la période de Troie VI, et un imposant mur en briques crues sur des fondations en pierre, datant de la fin de cette même période. Selon Korfmann, le mur en briques crues, découvert en 1995, et la palissade prouvent de manière concluante que la ville basse avait été planifiée dès l'origine et que les habitants de Troie, à l'exception peut-être de la royauté et des prêtres, ont toujours vécu hors de la citadelle. Entre 1250 et 1230 avenue J, C, la vie à Troie connut une transformation radicale. Les palais de la citadelle furent détruits et remplacés par des bâtiments plus modestes. Cela indique qu'à cette époque, les distinctions de classe, entre la royauté ou les prêtres et le peuple, par exemple, ne déterminaient plus qui vivait dans la citadelle et qui vivait dans la ville basse. Les événements précis de cette période font encore l'objet de débats. Cependant, la poterie de cette période est du même style que celle de la période antérieure, plus prospère, il est donc certain qu'il n'y a pas eu de changement d'occupation. Par conséquent, la destruction a pu se produire de diverses manières, à la suite d'un tremblement de terre, d'une attaque extérieure, de bouleversements sociaux, d'un incendie ou, plus probablement, d'une combinaison de ces facteurs. Parallèlement, toute la région de la Méditerranée orientale se déstabilisait. Le commerce avait décliné, quelques décennies plus tard, les cités mycéniennes et hittites étaient en ruine, leurs grands empires anéantis. Troie resta occupée, mais elle ne retrouva jamais sa splendeur d'antan. Attaquée vers 1180 avenue J, C, la ville ne put se défendre et fut ravagée par un incendie dévastateur. Lors des fouilles de 1995, des preuves convaincantes ont été mises au jour, démontrant que cet incendie avait précédé une guerre que les Troyens perdirent. La date de cette guerre, aux alentours de 1180 avenue J, C, a été déterminée par des méthodes scientifiques telles que la datation au radiocarbone et la sériation des céramiques. Cette date concorde avec les sources romaines et égyptiennes antiques qui situent la guerre de Troie d'Homère un an avant la destruction de la cité phénicienne de Sidon, survenue, selon les recherches les plus récentes, peu avant 1180-1179 avenue J, C. La guerre n'a pas signifié la fin de Troie ni l'expulsion de ses habitants. Mais la ville était désormais gouvernée par un autre peuple, dont la céramique était moins raffinée que celle des précédents occupants. Moins de 50 ans plus tard, de nouveaux immigrants arrivèrent, cette fois-ci des Balkans. Ils adoptèrent rapidement certaines techniques des Troyens, par exemple, l'utilisation du tour de potier, et poursuivirent, quoique dans une moindre mesure, le commerce avec les régions situées à l'ouest de la mer Égée. Jusqu'à peu après 1000 avenue J, C, ces trois peuples, les anciens Troyens, les peuples arrivés dans la première moitié du XIIe siècle avenue J, C et les peuples balkaniques, vivaient ensemble à Troie. Par la suite, selon les preuves archéologiques, la ville fut peu peuplée mais pas complètement désertée pendant environ 250 ans. Mais qui étaient exactement les habitants de Troie VI, la cité de la fin de l'âge du bronze? Pendant 124 ans, la plupart des chercheurs ont supposé qu'il s'agissait de Grecs, comme les Mycéniens, et qu'ils parlaient le grec mycénien. La céramique témoigne d'un commerce florissant entre Troie et la Grèce à cette époque. Cependant, aucun document écrit apportant des réponses définitives n'avait été mis au jour. Tout a basculé avec la découverte, en 1995, par Donald et Aston, du sceau en bronze objet métallique biconvexe. Les caractères qu'il porte ne sont pas en linéaire B, l'écriture mycénienne. Le texte, une partie du nom d'un scribe et d'une femme, probablement son épouse, est en hiéroglyphe hittite. Ces caractères servaient à écrire le louvite, une langue indo-européenne proche du hittite. B. Ceci indique que Troie, à la fin de l'âge du bronze, n'appartenait pas à la culture mycénienne grecque, mais à la culture hittite louvite. D'autres éléments viennent étayer cette conclusion. Les portails fossés défensifs présentent des caractéristiques architecturales hittites et non mycéniennes. Le fait que Troie ne fut pas mycénienne est également confirmé par l'étude de la céramique. Des analyses statistiques modernes, réalisées à l'aide d'ordinateurs, ont démontré que seule une petite fraction de la céramique troyenne de l'âge du bronze est de style mycénien, certaines pièces étant importées et d'autres produites localement. La grande majorité de la céramique troyenne est indigène, notamment la céramique grise mycénienne. Lors des fouilles de 1996, les archéologues ont également découvert une nouvelle explication concernant les nombreuses stèles encore visibles au port de Troie-VI. Elles étaient utilisées pour le culte de la divinité principale de la cité, probablement le dieu Apalluna. À la fin de l'âge du bronze, des stèles similaires n'ont été découvertes jusqu'à présent que sur des sites situés plus à l'est, en Anatolie hittite et louvite, et non le long de la mer Égée. Lors de la campagne de fouilles de 1995, des archéologues ont mis au jour ce qu'ils appellent un guerrier debout, une petite statuette en bronze représentant une divinité d'un type également retrouvée sur des sites hittites et d'autres sites du Proche-Orient. Ces parallèles témoignent clairement des liens étroits qui unissaient les Troyens à la fin de l'âge du bronze récent et le monde hittito-louvite. Au vu de ces éléments, il devient de plus en plus probable que la ville commère nommée Troie-Ouilio, écrit Ouilio en grec ancien, était une cité louvite, connue des Hittites sous le nom de Ouilusa. Cette hypothèse est également étayée par des textes hittites récemment découverts, dont les détails géographiques suggèrent que Ouilusa se situait au nord-ouest de l'Anatolie, c'est-à-dire en Troade. Il y a plus, dans un traité de vassalité hittite datant d'environ 1280 avenue J, c, entre le roi hittite Muatali et le roi Alexandre de Ouilusa, trois dieux sont cités comme témoins pour Ouilusa, 1, Apalluna, 2, le dieu de l'orage de l'armée, 3, Dingir, Cascalcur. Les noms Alexandre et Apalluna ressemblent fortement à des noms liés à Troie dans l'Iliade. Paris est également appelé Alexandro, et le dieu protecteur des Troyens est Apollon. De nombreux chercheurs pensent qu'Apollon était d'origine anatolienne. À l'époque grecque, il était représenté sur les portes des villes, sur des stèles, comme celle découverte à Troie à la fin de l'âge du bronze. La campagne de 1997 a également confirmé la possibilité que Troie et Ouilusa soient une seule et même cité, Dingir, Cascalcur, le troisième dieu cité comme témoin dans le traité de 1280 avenue J, c. Le terme traité signifie littéralement « dieu de la rivière souterraine ». Ce dieu était vraisemblablement associé au monde souterrain en général et au puits et à l'eau en particulier. Pour son culte, les Hittites construisirent des grottes artificielles près d'un lac sacré dans leur capitale, Hattusa. Une grotte artificielle de ce type, dotée de trois bras, a été mise au jour à Troie lors des fouilles de la dernière saison. Cela signifie que les cultes d'au moins deux des trois dieux nommés en l'honneur de Ouilusa existaient à Ilio III. Des documents hittites font état de plusieurs conflits, voire de guerres, impliquant Ouilusa. Un vers d'un chant cultuel louvite du XVIe siècle avant J, s'est présente d'étonnants parallèles avec Homère. Dans l'Iliade, Homère évoque l'Ilio escarpé, le vers louvite se lit soit quand ils vinrent de la Ouilusa escarpée, soit quand ils vinrent de la Ouilusa sur la mer. Homère connaissait-il cette Ouilusiade? Était-elle l'une de ses sources d'inspiration? L'homme que nous appelons Homère, qui a donné à l'Iliade sa forme définitive, a vécu au 8e siècle avant J, c, dans la région d'Izmir, en Turquie actuelle. À son époque, le louvite était encore parlé et compris. Cela pourrait signifier que l'Iliade repose non seulement sur la tradition orale, mais aussi sur des sources écrites. La Troie d'Homère était-elle aussi mycénienne? Ou uniquement hittite? Peut-être s'agissait-il d'une troisième entité, une cité louvite à part entière, servant d'intermédiaire entre ses puissants voisins de l'Est et de l'Ouest, interprétant leurs messages et échangeant non seulement des biens, mais aussi des nouvelles, des technologies et des idées. Nombre de villes frontalières partagent les caractéristiques des deux mondes. Strasbourg, par exemple, représente le mode de vie français dans une architecture allemande. De la même manière, la puissante 3VI fonctionnait comme une sorte de creuset, un petit Manhattan de la fin de l'âge du bronze, où l'on venait échanger des idées et des inventions, que l'on rapportait ensuite chez soi. Selon une légende grecque, l'Europe serait originaire d'Asie, l'écriture et les chiffres, le bronze et le fer, la religion et la philosophie, et bien d'autres choses encore, seraient d'origine orientale. Dans le mythe grec, Zeus enlève Europe et s'enfuit avec elle sur l'île de Crète, un chemin pour le moins détourné vers l'Europe. Le plus puissant des dieux de l'Olympe n'était pas stupide, je pense donc que le mythe se trompe. Zeus et Europe ont certainement rejoint le continent européen en passant par Troie, comme tant d'autres. Cet article s'appuie sur les recherches menées par l'équipe des universités de Tübingen et de Cincinnati, ainsi que par d'autres scientifiques. Sans leur aide, je n'aurais pu rédiger un texte aussi complet sur le sujet. Les résultats des fouilles sont publiés chaque année dans la revue Studia 3K. Les lecteurs souhaitant soutenir les travaux archéologiques en Troie sont invités à rejoindre l'association des Amis de Troie, professeur Jetzel Monsieur Cohen, Institute for Mediterranean Studies, 7086 East Arkoma Drive, Cincinnati, au 45237, États-Unis.